VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Merci à Bamako, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Violence en RCA, le Tchad exhorte à son tour la communauté internationale à redoubler de vigilance et d'engagement en Centrafrique après les mises en garde d'un haut responsable de l'ONU sur des signes avant-coureurs de génocide dans le pays voisin. Tout comme le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires, Stephen O'Brien, N'Djamena a exprimé ses vives inquiétudes et estime qu'une telle perspective pourrait avoir des conséquences sécuritaires et humanitaires dramatiques pour toute la région, et en particulier pour le Tchad, qui abrite déjà des centaines de milliers de réfugiés dans des centres africains. C'est ce qu'affirme en substance le ministre tchadien des Affaires étrangères, Hissein Brahim Taha, dans un communiqué de presse reçu ce mercredi par l'AFP. Lundi 8 août, Stephen O'Brien avait fait état de signes avant-coureurs de génocide en RCA, où des violences meurtrières opposent des groupes armés qui contrôlent la majeure partie du territoire centrafricain. Rappelons que le Tchad accueille près de 74 000 réfugiés centrafricains et environ 72 000 Tchadiens revenus de RCA, selon les derniers chiffres de l'ONU. En RDC, 10 personnes kidnappées par des présumés rebelles ougandais de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, dans le nord-est du pays. Nous déplorons l'enlèvement de 10 personnes au village de Kounou par des personnes armées identifiées à des rebelles de la LRA, a déclaré à l'AFP l'administrateur du territoire de Dungu, Christophe Ikando. Pour sa part, la radio onusienne en RDC, Okapi, annonce qu'au moins 40 personnes ont été kidnappées, dont deux membres de la commission chargée d'organiser les élections en RDC. Et toujours en RDC, au moins 2 personnes sont mortes du choléra dans le sud Kivu, province de l'est du pays. Plusieurs dizaines d'autres cas ont été recensés. Le point avec Eddy Sango.
La zone de santé de Fizi sur les littorales de Tanganyika est la plus affectée par cette épidémie avec plus de 70 cas par semaine. Bukavu, le chef-lieu, en est à 35 cas par semaine selon l'autorité sanitaire de la province. Un centre de traitement gratuit du choléra est installé à l'hôpital public de Bukavu, indique le ministre Mwanza Nangunya. Mais l'hôpital est aussi touché par une pénurie d'eau depuis plusieurs semaines. Médecins sans frontières Espagne a promis lundi d'octroyer du matériel et des médicaments à certaines structures médicales de la province. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a annoncé la mise en place d'un comité provincial de crise pour la gestion harmonieuse de l'épidémie du choléra dans le sud Kivu. Selon l'ONU, le choléra est devenu un problème de santé publique majeur en RDC, avec des milliers de cas enregistrés chaque année dans de nombreuses provinces dépourvues d'infrastructures et où la majeure partie de la population vit dans la pauvreté. Plus de 700 décès du choléra ont été enregistrés depuis 2016.
Nigeria, 3 femmes kamikazes se sont fait exploser mardi dans une ville à 25 km de Maiduguri, le chef-lieu de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. Attaque qui a fait 28 morts selon des sources locales. Ibrahim Liman, l'un des chefs des milices civiles engagés dans le combat contre les djihadistes de Boko Haram, a confirmé le triple attentat, ajoutant que plus de 80 blessés ont été conduits à l'hôpital de Maiduguri. Le Mali a demandé hier au Conseil de sécurité de l'ONU une aide matérielle et financière pour contribuer à la création d'une force militaire conjointe. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
L'ambassadeur malien à l'ONU, Issa Konfourou, a d'abord rappelé les récentes attaques contre des camps de l'ONU dans le nord du Mali et l'attentat au Burkina. Il a ensuite souligné que ces actes rappellent l'urgence de créer une force conjointe entre pays du Sahel avec l'appui de la communauté internationale. Issa Konfourou a appelé les pays amis et organisations internationales à financer cette force conjointe. Le budget annuel de cette unité de 5 000 hommes est estimé à 423 millions d'euros et seulement 108 millions ont été mobilisés. En visite hier à Ouagadougou, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, président en exercice du G5 Sahel, a affirmé que la Mauritanie, le Tchad, le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont unis face au terrorisme. L'objectif du G5 Sahel est de déployer les premières unités en octobre et rendre tous les bataillons opérationnels en mars 2018. Une priorité sera accordée aux opérations militaires transfrontalières.
Comment combattre avec efficacité les djihadistes qui lancent des attaques comme l'incursion meurtrière de dimanche à Ouagadougou au Burkina Faso? Jacques Aristide a posé la question à Babacar Ndiaye, spécialiste des conflits armés et du terrorisme en Afrique de l'Ouest.
Le Burkina commence à être coutumé des faits en termes d'attaques terroristes. C'est à l'image des pays de la région, hein. Vous savez, c'est difficile de combattre aujourd'hui le terrorisme parce qu'il faut des moyens, il faut des services de renseignement qui soient très performants, il faut aussi des forces de sécurité qui soient vraiment bien formées, outillées pour faire face à la menace. Donc, pour moi, c'est un ensemble de facteurs qui peuvent vraiment pouvoir enrayer cette menace terroriste. Donc, le Burkina, ce n'est pas un pays ciblé en tant que tel, c'est juste que voilà, c'est à l'image des pays de la région, ce sont les pays qui sont face à des menaces terroristes.
Justement, hormis le Mali et le Burkina, quels sont les pays de la sous-région qui ne sont plus à l'abri du terrorisme et comment peuvent-ils lutter contre la menace?
Écoutez, c'est une menace globale. Aujourd'hui, je pense que si on doit faire une liste de pays qui doivent être épargnés par les attaques terroristes, pour moi, c'est vraiment ne pas comprendre ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des groupes armés qui sont dans le Sahel, qui sont dans la région et qui ont envie d'en découdre avec les pays et qui ont envie de perpétrer des attaques sur le sol de ces pays-là. Donc, à mon avis, aujourd'hui, aucun pays ne peut dire que je suis à l'abri de la menace terroriste. C'est une menace qui est globale et que chaque pays doit vraiment prendre cette menace au sérieux et essayer de mettre en place un dispositif de sécurité, de mettre en place des moyens et surtout de collaborer avec les autres pays de la région. Pour moi, aujourd'hui, il faut porter une réponse globale à cette crise. Nous le voyons, par exemple, l'initiative du G5 Sahel.
Babacar Ndiaye, spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest, condamné à Dakar, au Sénégal.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Sierra Leone, le président Ernest Bai Koroma a lancé un appel à l'aide internationale après les inondations et les glissements de terrain qui ont fait plus de 300 morts et des centaines de disparus à Freetown, la capitale, où les autorités ont commencé à enterrer les victimes. « Nous sommes débordés par ce désastre », a déclaré le chef de l'État devant la presse dans le quartier de Regent, l'un des plus touchés par la catastrophe qui a endeuillé la capitale. Actualité américaine maintenant, les États-Unis ont publié hier leur rapport annuel sur la liberté religieuse, un panorama des entraves à la liberté de culte et de croyance dans près de 200 pays du monde. Celui de 2016 dresse un tableau sombre, Morgan Guiriec.
En présentant le rapport à Washington, le secrétaire d'État américain a d'abord mis l'accent sur le groupe État islamique en Irak et en Syrie, qui cible des groupes religieux ou ethniques par le viol, les enlèvements, l'esclavage et la mort. Pour le chef de la diplomatie américaine, Daesh est responsable de génocide à l'encontre des yézidis, des chrétiens et des musulmans chiites. Le rapport du département d'État recense les discriminations contre les musulmans en Hongrie ou d'actes antisémites et contre les musulmans en Allemagne où une interdiction partielle du voile intégral est en débat. Le document relève aussi les controverses en France sur une possible interdiction du burkini sur les plages. L'Iran est épinglé pour avoir condamné à mort des personnes pour apostasie. La Chine est pour sa part accusée d'incarcérer des milliers de personnes à cause de leurs croyances religieuses. L'Arabie Saoudite, alliée des États-Unis, n'est pas en reste. Elle ne reconnaît pas le droit des non-musulmans à pratiquer leur religion. Au Pakistan, une vingtaine de personnes sont dans les couloirs de la mort ou emprisonnées à vie pour blasphème.
Bras de fer entre les États-Unis et la Corée du Nord maintenant. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a annoncé hier une pause dans le projet de son pays de tirer des missiles près du territoire américain de Guam dans le Pacifique. Les principales puissances impliquées dans ce dossier semblent maintenant vouloir jouer l'apaisement, y compris les États-Unis, John Lindon.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, traditionnellement très mesuré dans ses propos, a réaffirmé dans la foulée qu'il ne fermait pas la porte à un éventuel dialogue. « Nous sommes toujours intéressés par la recherche d'une voie vers le dialogue, mais cela dépend de lui », a-t-il affirmé au sujet de Kim Jong-un. L'annonce du dirigeant nord-coréen constitue en elle-même une possible porte de sortie de la crise alimentée par la guerre des mots entre le président américain Donald Trump et la Corée du Nord. Autre signal d'une volonté de désescalade, la Chine, principal allié de la Corée du Nord, a également estimé hier qu'il était temps de revenir à la table des négociations. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe Sergei Lavrov pour évoquer comment sortir de la spirale de confrontation sur la péninsule coréenne. Pékin et Moscou ont appelé toutes les parties impliquées, avec le soutien de la communauté internationale, à se diriger vers la mise en place d'un dialogue, d'après le ministère.
Et pour terminer, le Canada, les États-Unis et le Mexique entament ce mercredi des discussions pour renégocier le traité de libre-échange nord-américain, l'ALENA, à la demande du président Donald Trump, qui en a fait une priorité de sa politique. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.